remplacer. Ils ont trouvé Stéphane qui quelque part n'était pas une mauvaise idée.
Bah aussi, oui, oui.
Parce
bah
que
oui.
Tu vois, ah, moi, je l'appelais, un gars qui était apprécié du public, validé par l'actionnaire et qui lui-même avait montré et avait des qualités, ok. Mais si tu étais dans l'idée, et c'était d'ailleurs ça, puisque au tout départ, il avait été clairement dit, c'est vraiment un intérim, il y a un contrat de 6 mois. Et derrière, tu te précipites à le reprolonger, alors que tu as justement fait en sorte que tu aies l'idée d'un contrat commando, d'une mission commando. Bah, moi, je pense que derrière, il aurait fallu se mettre au travail pendant le début, et même si les résultats étaient bons, pour se dire, est-ce que vraiment on continue avec ça, ou est-ce qu'on construit un nouveau projet, avec quel directeur?
T'es pas obligé de te précipiter. T'es pas obligé de te précipiter. De toute façon, Stéphane, encore une fois, à la fin de saison, tu te serais mis sur la table avec lui, et puis tu discutes s'il avait envie de continuer. Je pense
mais
pas
surtout que lui, quand il est arrivé, le truc de 6 mois, c'était validé des deux côtés.
Oui.
Tu vois. Il
oui,
n'y avait pas eu d'exigence en disant tiens, si on fait tant, tu vois, machin. Et je vais même te dire mieux, il aurait pu y avoir du côté des dirigeants à l'inverse un truc lié au classement. Tu sais, si on est telle place, alors il y a une prolongation. Non, même pas.
Après, donc, à partir du moment, Flo, à partir du moment où tu sais très bien que la décision de que Stéphane arrive au club, c'est pas Florian Maurice, que c'était là-haut. Il y avait déjà, moi je trouve qu'il y a des choses déjà qui.
Allez, les gars, qui me dérangent.
Bah, déjà, la logique,
effectivement. Mot de la fin, Flo, pour toi, sur.
Très simple, la logique eût voulu, et on l'a tous pensé, et même le président, tout le monde pensait que ça allait être comme ça, qu'avec le départ de Genesio, on acte en même temps ou quasi
en même temps.
Ouais. Pendant 72 heures à Rennes, tout le monde était persuadé que c'était fini, on se demandait même si les cartons n'étaient pas déjà faits. Il y a eu un truc un peu bizarre, un peu super étonnant pour tout le monde, il y a eu un retournement de situation, mais la logique eût voulu que, à ce moment-là, effectivement, Florian Maurice s'en aille aussi.
Et Ibrahim Sava, là, il t'a dédicacé sur le but, là.
Ah ouais, un tapine, comme d'habitude.
Non, mais, le chute, c'est sur.
Il est pour moi. Ah, il est pour moi.
Alors, Flo Boutron, tu me critiques dans l'afterfoot, regarde. Regarde ce que je peux faire.
Mais sauf qu'il est trompé de direction, mais. Bah,
j'ai pensé à toi.
Ouais, il aurait
j'ai pensé à toi.
Vers moi. Mais tu vois.
Je crois qu'il est pas si mauvais que tu le dis, Flo.
On est en retard.
Le mec, il a plein d'erreurs techniques, mais un bon tapine, effectivement.
Non, mais au début, là, l'origine, quand même.
Dans un instant, on va parler de Lens. Je remercie Fred, le 32-16. Julien nous attend, supporter lensois. Et puis, vous le savez, la roue est de retour sur RMC. Cette fois, vous allez pouvoir remporter jusqu'à 20 000 euros par jour. 100 000 euros sont en jeu, donc ça vaut le coup d'écouter RMC dans les jours qui viennent. Dès que vous entendez cette alerte, et ben vous aurez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant roue, R-O-U-E. Je le précise, hein, R-O-U-E, comme une roue. C'est pas Guy Roux, en l'occurrence, par exemple. Vous enverrez roue par SMS au 732-16 dès que ça tombe. Restez donc à l'écoute d'RMC. Et puis n'oubliez pas également les podcasts des archives de l'After, toujours en ligne. On vous a mis plein de petites pépites. Là, par exemple, j'ai vu qu'il y avait 2-3 extraits. Par exemple, les goûts et les couleurs de Daniel sont en ligne, si vous voulez réécouter ce grand moment. Voilà, pour se faire du bien quand on est de mauvaise humeur, quand on est de mauvaise nouvelle.
Oui.
Les archives de l'After, abonnez-vous, c'est une chaîne de podcast qui est différente de celle de l'After, hein, donc vous pourrez la trouver sur toutes les plateformes. A tout de suite avec Lens au programme, Lyon et le maintien.
RMC jusqu'à 12h30,
l'After Foot.
RMC, les grandes gueules.
Demain 9h, on redémarre la semaine avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. 3 GG seront là pour discuter, pour débattre avec vous au 32-16. L'avocat Charles Consigny, la coach de vie Joël Dagosséry et Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie.
RMC les grandes gueules, tous les jours 9h midi.
L'afterfoot sur RMC avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio. Avec Éric Dimeco, l'ancien fou.
Oui, voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Higuain, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présent de la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à demain.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC.
17h56. 17h58, l'enfer, le périph. 18h.
Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, toutes les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
T'es chez Lidl ?
Ah oui, et pour nous c'est cuit. Dès demain, les 4 brochettes de dinde sont à 3,19€ les 400 grammes au lieu de 4,49€.
3,19€ les brochettes de dinde, moins 28%.
Ah oui patron, c'est bien, bien cuit pour nous hein.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 7,98€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'au dimanche 19 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 6, encore 24 minutes d'after ensemble. Ensuite, ce sera le poker avec Daniel Riolo, bien sûr, qui sera de retour dans l'after demain. Pour l'instant, Oleda Cherchour est là. Florent Gautreau est là également. Flo est à Rennes, il a vu Rennes, il a aussi vu Lens, forcément. Et Julien est avec nous, supporter du Racing Club de Lens. Salut Julien.
Salut Gilbert, salut Walid, salut Flo.
Bon, bah écoute, salut, un petit point qui fait que Lens n'est pas mort.
Ouais, mais on a plus notre destin en main et ce soir je suis déçu parce que autant les trois quarts du match, je trouve que la prestation physique et tactique elle est excellente. On est allé chercher les Rennais très haut parce qu'on sait qu'à partir du moment où ils sont dans les 30 derniers mètres adverses, c'est là qu'ils sont dangereux et on les a empêchés de pénétrer trop loin. Et dans les attitudes, je trouvais que c'était vraiment cohérent. Donc le 1-0 pour moi, il est relativement mérité, même si bien sûr Rennes a quelques occasions. Et puis, il y a un événement pour moi qui change un peu les choses négativement pour nous, c'est les rentrées de Thomasson et Guilavogui. Guilavogui, il a un travail à faire devant, c'est de garder le ballon, c'est d'empêcher les relances, c'est qu'on continue à presser les Rennais. Et en fait, il arrive à rien conserver. Certes, il a failli faire une passe décisive, mais globalement, son entrée, elle nous fait reculer, je trouve, sur le front du pressing. Et ça m'a fait penser à sa rentrée contre Fribourg, où pareil, on recule, jusqu'à prendre l'égalisation fribourgeoise. Et là, ça a un peu ressemblé à ça. Et pour moi, il y avait moyen de conserver le 1-0 en restant un peu plus haut, comme on l'a fait sur les trois quarts du match. Donc, oui, c'est un point, mais avec trois points, on aurait pu avoir notre destin en main pour l'Europe. Et là, au final, si on gagne les deux matchs, mais que Marseille gagne ses deux matchs et que Lyon gagne la Coupe, bah, ce sera fini pour nous.
Bon, ça fait beaucoup de si quand même.
Non, mais c'est vrai qu'elle est un peu décevante. Alors, pour le coup, cette équipe de Lens, dans le jeu d'ailleurs, depuis quelques matchs. Et je suis assez d'accord avec toi. Moi, celui que j'ai trouvé bon, c'est Saïd. Parce que lui, il est toujours très intéressant dans le jeu. Moi, je trouve qu'il est sous-côté.
Oui, parce que c'est pas titulaire dans l'équipe.
Non, il est pas titulaire. Et dès qu'il rentre, il est bon. Ouais. Là, quand il est titulaire, il est bon. Ses contrôles, c'est vers l'avant. T'as raison, ils avaient la possibilité de maintenir les Rennais chez eux. Après, je te trouve un peu dur avec Guilavogui parce que je le trouve pas très adroit, je vais te dire la vérité. En revanche, il a fait le taf un peu. Et lui, il a gagné son duel avec Christopher Wu. Il a fait du mal à Wu et c'était un peu compliqué en première période. À l'inverse, parce que c'était Wu qui était assez costaud. Donc, les Lensois, c'est surtout un manque de qualité par rapport à ce qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire que, tu vois, on ne retrouve pas les Sotoka, les Frankowski, tu vois, tels qu'on les voyait à une époque. Donc,
même si Frankowski, sur le but, il fait un bon boulot.
Ouais, mais tu le vois beaucoup plus par intermittence. C'est-à-dire que cette équipe-là, c'était une sorte de bloc qui est impressionnant. Tu as toujours des joueurs impressionnants comme Medina derrière qui fait tout le cabas, toujours un boulot de dingue. Mais c'est vrai que dans la salle des machines, au milieu, c'est un peu moins brillant et cohérent et compact. Et donc, il y a quelques failles. Après, sur le but, en plus, Samba, il fait un arrêt énorme avant qu'il y ait le but rennais. Et il a reproché beaucoup à ses défenseurs de ne pas avoir été bon sur le deuxième ballon, sur le ballon que lui a sorti, tu vois. Mmh. Parce qu'il y avait encore moyen de s'en sortir. Mais cette équipe de Lens, j'ai trouvé que sur un partout, il était assez justifié. Non pas que Rennes a été génial, loin de là, mais ils ont eu effectivement quelques occasions. Mais Lens n'a pas non plus été génial sur cette saison.
Ça n'a pas été un immense match. Hein.
Ah non, ça n'a pas été un grand match. Et finalement, c'était un peu à l'image de cette fin de saison des deux équipes, c'est-à-dire deux équipes qu'on voyait plus haut. Alors Lens, Moi, je leur donne un bémol quand même, et mérité, c'est qu'ils ont fait la Coupe d'Europe, ils ont laissé beaucoup de force là-dedans. Rennes, on en a parlé. Et finalement, deux équipes un peu décevantes, notamment dans cette fin de saison, qui font un partout un peu décevant, mais un partage des points équitable, je trouve ça assez logique.
Je remercie Julien au 32-16. Les gars, avant qu'on parle du maintien, avant qu'on parle de Paris face à Toulouse, un mot de la remontada fantastique de Lyon, qui a encore gagné ce soir.
11e victoire sur la phase retour.
Incroyable, les Lyonnais. Ils ont 50 points, ils sont 7e. Alors eux aussi, ils sont plus que jamais encore là pour l'Europe. Une nouvelle fois, on va le répéter plein de fois d'ici à la fin de l'année, mais enfin, ce serait du jamais vu. Dernier en décembre, européen en mai. Ça, c'est un truc de fou quand même.
Ils sont 3e sur les 25 derniers matchs. Ils voilà. sont 2e sur les 20 derniers matchs, ils sont premiers sur les 15 derniers. On le rappelle, hein, mais quand Pierre Sage arrive, il y a 7 points.
Alors après, là, ce qui est dingue, c'est qu'il a même pu se permettre de faire tourner et d'essayer de préserver des joueurs qui risquaient le carton, tu sais, pour la finale, pour la suspension en finale de coupe. C'est-à-dire que c'est Clermont qui a un truc, c'est que Clermont, contrairement à Mikotadze avec Metz,
Clermont qui réussissait plutôt bien contre Lyon,
mais ils n'ont plus personne pour mettre des buts. Ni Kay, ni Cham, ni... Il n'y a pas un mec qui est capable de mettre un but. Alors donc, effectivement, Sage, moi je trouve qu'il a quand même bien géré le truc, parce que ce n'était pas le meilleur match. Même Clermont a eu des opportunités en première période.
Oui, Clermont aurait mérité un peu mieux sur la rencontre.
L'argent. Mais s'ils ont un Mikotadze ou un buteur chez eux, enfin un gars qui est en confiance.
Mais Clermont, c'est l'histoire de leur saison. Hein. Parce que globalement, dans les intentions et même dans la production, c'est souvent très intéressant. Et puis, ils reculent devant personne. Hein. Je rappelle qu'ils ont pris deux points sur six contre le PSG, notamment. C'est une équipe qui, mais après, dans les deux surfaces de réparation, ils se font à chaque fois crever par des grosses erreurs, par une incapacité. À marquer par une erreur du gardien, par un pénalty concédé, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont 18e. Mais c'est vrai que malgré ça, l'Olympique Lyonnais arrive à trouver une fiabilité de gagner les rencontres par une bonne action, par un geste individuel, et ça leur permet d'être encore une fois sur une dynamique très positive, de faire reposer aussi quelques cadres avant la finale dans 15 jours. Voilà, les signaux sont au vert. Après, il va falloir faire un coup contre le PSG pour véritablement changer de dimension dans cette saison, parce que si tu gagnes la Coupe de France, là tu fais une saison qui est...
C'est pareil, le truc qui...
C'est la saison de folie.
La saison elle change de dimension. Hein.
Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que devant, en gros, on peut considérer que les joueurs qui jouaient aujourd'hui ne sont pas les titulaires habituels, même si moi j'aimerais que l'un d'entre eux le soit, c'est Fofana. Mais donc tu avais Orban et Cherki notamment, et Cherki qui l'a encore a montré quelques limites, tu vois, en tant que titulaire, parce que tu sais, on se dit parfois, tiens, est-ce qu'il mérite pas aussi d'avoir...
Il a été dangereux quand même, même s'il est frustrant encore, mais il est quand même globalement...
Tu vois, il a toujours ce truc de cette touche.
C'est lui qui va faire la passe D quand même.
Ouais, c'est vrai, faut lui donner ça, mais après, sur le reste de cette équipe, et pour ce
moi, c'est plus le milieu de terrain, Maitland-Niles et Cacré qui m'ont qui m'ont un peu déçu aujourd'hui.
Alors, Vincent est là, supporter lyonnais.
Attends, Gilbert, c'est ma fille, parce qu'à un moment donné, j'ai entendu, je sais plus qui commentait pour nous le match sur RMC, et qui dit, je crois que Matic va sortir parce qu'il a eu des crampes. Et alors, la scène Matic, l'équipe qui mène avec Matic et Matic qui a des crampes, c'est une scène qui se répète depuis une éternité sur les différents clubs qu'il a fréquenté. Tu sais, il se met par terre, t'es crampes. Je sais pas si c'était le cas, mais bon, je sais pas à quelle minute il est sorti.
80e, c'est Pidja Wara qui est rentré.
Si, il a dû faire la scène des crampes alors.
Pidja Wara qui est rentré.
Vincent, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Gilbert, salut. Bonsoir Flo, bonsoir Walid.
T'étais au stade ?
Ouais, j'étais au stade, ouais, je suis supporter lyonnais. Et j'ai écouté ce que vous avez dit et je suis assez d'accord. Moi, franchement, vu du stade, clairement, on mérite beaucoup mieux.
Hein. Oui, ce qu'on a dit. Ouais.
Ouais. Dans l'intensité, ce qu'ils ont donné. Alors, je sais pas si Lyon a un peu marqué le coup, mais il y a des remplaçants qui avaient un coup à jouer ce soir et malheureusement, ils n'ont pas tous marqué des points. Orban, ça devient inquiétant.
Ouais, on parle beaucoup de Mbagna à Marseille, mais Gift Orban.
Oui, tu dirais que c'est pas un cadeau?
Je vais encore attendre parce que le football maintenant c'est une salle d'attente. Hein. Faut pas cramer les joueurs tout de suite. Il vient d'arriver, mais sur ses prises de balle, sur ses
choses techniquement, ouais, tu sais, tu peux regarder tout de suite. Hein.
Ouais. Et après, il a des qualités, hein, athlétiques. Il va peut-être mettre l'année prochaine sa valise de but. Hein, mais pour l'instant, je suis vraiment pas emballé. Hein.
Vincent, oui, tu peux, si tu as d'autres joueurs à citer.
Après, moi, je trouve, perso, moi, Cherki, quand il est titulaire, Je trouve qu'il a tendance à surjouer un petit peu. Alors c'est lui et c'est lui.
Cherki, deuxième minute du match. Il y a un joueur, je sais pas qui c'est, qui est dans l'axe. Il déborde. Il fait un super déborde.
Oui, la grosse occasion qui où il met le poteau là.
Il tire, il tire sur le poteau. Il veut absolument marquer dans un micro espace alors qu'il peut la donner par terre. Ouais. Ah, je sais pas. Je sais plus qui était dans l'axe là.
Bon, c'est Mangala, je crois.
Franchement.
Mangala ou Orban.
C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que tu comprends mieux les compos de Pierre Sage. Moi-même, je me suis dit, tiens, ce serait peut-être intéressant de remettre. Alors, moi, j'aime beaucoup Fofana, mais pourquoi pas Cherki aussi. Il le fait ce soir. Tu regardes, t'as raison. Deuxième minute, t'as ce genre de truc. Après, t'as une touche en trop. Après, t'as des trucs très bien aussi. Donc, tu comprends mieux, en tout cas, que Sage, qui lui, le connaît en plus parfaitement, le gère de cette façon-là. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant. Moi je noterais autre chose. C'est que clairement, c'est quand même à bouger cette équipe-là, et que cette équipe-là a une charnière centrale quand même, qu'à l'état de char O'Brien, quand même, qui n'est pas ce qui se fait de mieux.
Ça va être l'un des plus gros chantiers l'année prochaine.
Voilà, chantier en prochain, et je pense aussi à la finale de la Coupe, là, puisqu'on parlait un peu de tout ça. Si tu veux aller regarder dans les points faibles, on en a parlé pour plein d'équipes là ce soir. Hein. Marseille doit recruter, Rennes doit faire aussi doit faire évoluer son effectif. Là, c'est le cas. Bien sûr, ça passe parce que c'est une équipe qui passe de dernier à je sais même plus combien ils sont aujourd'hui, mais en tout cas limite européen.
Septième.
Septième, c'est énorme. Mais si on est totalement juste, il y a aussi, Walid l'a dit, hein, Gift Orban, ou là, attention, ça c'est peut-être un peu juste. Derrière, qualité de Charo.
Et Lyon reçoit Strasbourg en dernière journée. Bon, à Strasbourg, on joue plus rien.
Non, mais Flo, tu veux que je te dise, moi, c'est ça qui est fort, c'est que je trouve que Pierre Sage, on parle du recrutement. Bien évidemment que le recrutement a permis d'avoir une émulation et d'avoir un Cacré meilleur, d'avoir un Tolisso à un moment donné meilleur, même si là, il replonge un petit peu, de réveiller un peu les têtes et de pouvoir avoir un banc qui te fait très très mal. Mais hormis le gros passage de Matic début 2024 et Saïd Benrahma, mais moi le recrutement pour l'instant, mais Mangala au milieu de terrain, il marque ce soir, mais Mangala pour moi, pour l'instant, on parle d'un prêt payant de 10 millions d'euros avec option d'achat à 30 millions hein. À 30 millions des mecs comme ça dans l'ombre, etc., j'en connais beaucoup moi aujourd'hui en Ligue 1 qui font le travail de Mangala. Gift Orban, on vient d'en parler. Malik Fofana, j'aime beaucoup, mais ça, on va attendre un petit peu. Pour l'instant, il y a pas un énorme impact, c'est plus un impact player qu'un mec qui démarre. Et t'as Benrahma qui est vraiment bien, mais comme tu l'as dit, l'année prochaine il va falloir voir ce que tu fais. De je pense qu'O'Brien, il a une grosse cote en Angleterre, va falloir peut-être le sortir, prendre un gros défenseur central
en Angleterre, en Irlande peut-être, mais en Angleterre.
Non, je pense qu'en Angleterre, il y avait Everton qui le voulait. Il a une cote parce que c'est un joueur qui a des défauts, mais qui, peut convenir.
Je critique, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas un mauvais joueur.
Moi, je m'attendais à bien pire.
On va peut-être le retrouver ailleurs en Ligue 1.
Non, mais je m'attendais à bien pire, moi, quand il est arrivé. Je me suis dit, c'est un troisième ligne irlandais, qu'est-ce qu'il fout là, etc. C'est encore l'histoire de l'écurie Textor qui replace ses joueurs. Mais en fait, au final, il est pas écœurant du tout. Il a fait des matchs, mais il a encore des lacunes. Et je pense que pour passer un cap, il te faut bien meilleur. Mais tu vois, c'est que moi je trouve que Pierre Sage arrive à bien manager ce 13, ce 14, ce 15, on va dire, parce qu'il y a 15 joueurs qui tournent un petit peu sur les dernières semaines, avec des incertitudes sur pas mal de joueurs et pas mal d'individualités. Hein.
Et ce qui est bien aussi, c'est que on n'en parle pas trop, parce qu'il l'a fait assez en douceur à sa façon, c'est de sortir des joueurs qui n'allaient pas, comme Lovren. Parce que tu vois, on parle de ceux qui sont là, mais t'as oublié que t'en as sur le banc qui ne joue plus. Koumbédi, je crois.
Lovren, au début, Tolisso, il est sur le banc, après il revient parce qu'il est un peu mieux.
Le penant disparaît, il est sur le banc.
Mangala, 30 millions qui a fait des bancs aussi.
Et puis gérer tranquillement le côté du gardien avec la coupe. C'est l'avenir de l'OL. Il y a effectivement des choses, mais
Gift Orban qui coûte 13 millions, Mama Baldé qui lui passe devant, et Mama Baldé qui, là je crois qu'il était blessé, mais sinon il aurait démarré.
Mama Baldé, pour moi c'est largement au-dessus de Gift Orban.
Mais même sur la dynamique, bien évidemment. Ah, oui. Mais c'est qui ça? C'est Pierre Sage, parce que rappelle-toi du Mama Baldé sous Grosso, face à Lorient en début de saison.
Horrible.
Mais c'était un joueur adverse.
C'était incroyable. Par rapport à ce qu'on avait vu à Troyes.
C'est le premier défenseur de l'équipe adverse.
Tu le récupérais là, tu te dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Parce que autant.
Ouais, à 3, il mettait ses buts à 3.
Tu peux dire Baldé, c'est pas pour un club qui joue l'Europe, ok. Mais de là, ce qu'il devienne mauvais alors que le mec était bon, parce que c'est pas un mauvais joueur.
Ouais. Voilà, allez, Vincent, un truc à rajouter dans ton analyse.
Mais c'est son management qui l'a.
Vas-y, Vincent.
Ouais, moi, je voulais juste dire. J'ai peur, en fait, de la surperformance un petit peu et de l'état euphorique, parce que je pense que si on fait un constat global sur l'état des troupes, l'effectif, il est bien, mais il n'est pas non plus. Je pense qu'il faudrait quand même un gros mercato, notamment en défense. Il faudra un milieu de terrain de plus et après savoir en attaque, parce que Lacazette, même s'il reste, il va falloir l'aider. Benrahma, Matic, comment ça va se passer dans le temps, je sais pas non plus.
Lacazette, faudra voir, parce qu'il va falloir résister à l'Arabie Saoudite cet été. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc on verra bien, mais j'espère que Marseille va faire un petit faux pas et qu'on va pouvoir en profiter. Et bon, bah, si on peut retrouver l'Europe, ça nous manque, nous les Lyonnais, quand même, de regarder notre match en semaine. Ça fait un moment, quand même.
Merci Vincent, bon retour.
Ben, merci Gilbert.
Salut, à bientôt. Dans un instant, le maintien, on en débat ensemble. Puis un mot du Paris Saint-Germain qui a perdu face à Toulouse.
Il faut en parler, c'est quand même, ils sont champions ce soir.
Oui,
pas ce soir, mais bon, il y a eu célébration.
Volontairement, le suspense n'était pas au Parc des Princes ce soir. Il n'y avait pas de suspense pour Toulouse, il n'y avait pas de suspense pour Paris. Bravo, Toulousain. Hein.
Et on n'a pas encore parlé du plus gros match de ce soir.
Strasbourg-Metz. C'est tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30.
L'After Foot.
RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps. Tous les matins dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Encore 10 petites minutes d'after ensemble avec Walid Acharchour, avec Florent Gautreau qui est à Rennes ce soir pour Rennes-Lens. Il va fermer le stade, Florent. On parle de la lutte pour le maintien. Bon, Clermont, c'est mort. Ils sont ce soir définitivement en Ligue 2. Il y a quand même un scénario pour Lorient. Oui, il y a un scénario. Je vais vous le faire.
Fais-le nous, mais j'ai du mal à y croire quand même.
Bah oui, parce que Lorient, dernier match de Lorient, ils reçoivent Clermont.
Oui.
Bon, donc
oui, oui.
Ils peuvent gagner largement contre Clermont.
Bon, enfin, on va se calmer, hein, Clermont.
Ils ont une différence de but de moins 28. Et Metz, juste un match contre Paris. Oui. Donc si Metz perd largement contre Paris et que Lorient gagne largement contre Clermont, Lorient peut peut-être être barragiste encore.
Il faudra un 4-0-4-0.
Par exemple.
Moi, j'ai du mal à y croire. Mais Lorient, faudra qu'on en reparle quand même, qu'on fasse un bilan, parce que
Lorient,
s'il descend, la dernière fois j'ai dit 8e budget, on m'a repris 11e budget. Oui, j'ai encore revu 8e budget, de toute façon c'est la même chose. Mais quand on voit ce qu'ils ont encore redépensé.
Si je fais le rapport
en
budget-performance,
c'est la pire équipe. Hein.
Ouais.
Si tu fais le rapport budget-performance.
Sauf que Nantes s'en sort.
Nantes s'en sort encore par miracle. Mais Lorient, faudra qu'on fasse un gros bilan, parce que ce qui s'est passé cette saison. Il y a 2-3 choses à dire quand même.
Exactement.
Et donc, à l'inverse, ouais. Le Havre, puisque Walid, il ne peut pas en parler parce que là, il est obligé de se mettre hors jeu. Parce que là, il a le maillot du Havre sur le dos. Donc, on va en parler pour lui. Mais c'est vrai que le travail qui a été fait là, pour le coup, avec un vrai petit budget, ça a été chaud pour la fin de saison. Mais c'est normal que ça ait pu être chaud étant donné le budget. Mais c'est bien parce que c'est quand même pas simple de faire cette première saison à 18. Hein, on rappelle quand même. Dans cette Ligue 1 à 18 et ils ont bien travaillé, même si là aussi je pense qu'il y a plein de choses et Walid là discuter, mais il y a plein de choses et plein
d'aspects. Ça n'a pas été une saison facile
Puis même sur certaines individualités, il y a des choses qu'on espérait bien meilleures et qui n'ont pas été,
notamment le numéro 9 Momo Bayo, la deuxième partie du Havre a été compliquée, hein. Je crois que avant la victoire contre Strasbourg ils étaient à 4 points, mais ils arrivent à s'en sortir. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ils ont réussi à faire corps. Je pense qu'il y a beaucoup de directeurs sportifs ou beaucoup de présidents qui auraient peut-être viré le coach quand c'était pas bien en termes de résultats.
Mais ils ont fait confiance. Les 4 derniers n'ont pas changé de coach.
Mais à la différence, c'est que.
Alors tu vas me dire, peut-être dû, parce que du coup ils sont dans le dernier.
Alors
c'est la preuve que.
On
vire plus les coachs comme on pouvait
Mais à la différence, c'est que Nantes, par exemple, qui est un peu plus haut, a viré Gourvennec pour Comboiré. Ils ont réussi à se maintenir. Ce que je veux dire, c'est que le fait de faire corps entre le directeur sportif et entre l'entraîneur, en se disant on va y arriver, on va y aller, même s'il faut passer par les barrages, moi je pense que c'est ce qui a permis au Havre de pouvoir. S'en sortir. Et quand on voit Lorient et Clermont notamment, moi je l'avais dit en début de saison, et c'est pour ça que j'avais très très peur pour ces deux équipes, c'est qu'à partir du moment où Gastien en début de saison a dit c'est ma dernière saison, et que Régis Lebris a fait grève une journée parce qu'il voulait aller à Nice et qu'on lui a empêché. Pour moi, tu peux pas réussir ta saison à un moment donné. Tu peux pas fédérer autour de toi et tu peux pas emmener tout un club quand il y a eu ces choses-là. Et quand on regarde ce qui s'est passé à Clermont, ils ont récupéré Sébastien Bichard et ils l'ont mis un bis. Et quand on voit ce qui s'est passé à Lorient, en janvier, ils ont mis Cahuzac, l'ancien joueur de Toulouse notamment, qui était adjoint de Francaise, pour faire le tampon entre Régis Lebris et les joueurs. Parce que ça commençait à être très très compliqué. On se rappelle de ce qui s'est passé après Brest, le 4-0. Donc en fait, le problème, c'est que quand tu vois les deux qui descendent, c'est que même en termes de management, il y a eu des choses qui pour moi n'ont pas permis, au-delà de bien évidemment le niveau, mais qui ont permis de ne pas se maintenir pour moi.
Mais en fait, t'as raison hein, sur la gestion des coachs. Je pense même pour Clermont, pour aller plus loin, ça fait pas polémique parce que c'est Clermont, parce qu'on estime.
Et puis parce qu'ils ont fait trois ans exceptionnels déjà en Ligue 1.
C'est peut-être plus une équipe de Ligue 2 que de Ligue 1. Oui. Mais le fait de pas avoir tourné la page Gastien plus tôt, c'est sans doute une erreur. Faut le dire aussi parce que si c'était un autre club, on le dirait. Donc après tout, c'est bien, très bien. Il y a une fin propre pour lui, mais je pense que cette année-là, c'était l'année de trop. Donc faut le dire aussi. Et puis pour Lorient, bah, c'est un peu comme pour les joueurs. À un moment donné, à quoi ça sert de retenir, tu sais, on le dit parfois, un joueur vraiment contre son gré, tu vois, eh ben, fallait laisser partir, fallait changer d'histoire, même si c'était peut-être pour certains prématuré, bah c'est que tu as raison. À partir du moment où il était dans cet état d'esprit, non seulement lui, il était dans cet état d'esprit, mais les joueurs ont vu qu'il était dans cet état d'esprit. Et quand je te dis moi que à l'inverse, les joueurs parfois sont très sensibles aux signaux qu'on leur envoie, comme ici quand on dit tiens, on prolonge le coach. Ah ok, bon, c'est le coach qui me fait confiance moi toute la saison. Tu vois, je suis un peu dans mes chaussons, même si c'est inconscient. Ok, bah, l'inverse c'est pareil.
Il faut pas minimiser ça. Et à contrario, Metz qui sur la fin de saison, parce qu'il faut en parler, Miko Tadze fait une fin de saison mais complètement.
Mais ce soir, ils peuvent être le deuxième but. Il y a poteau.
Ce soir, il y a 1-0, il y a poteau, ça fait 2-0. Mais j'espère que ce qu'ils allaient prendre en Ligue 1, fallait lui reverser en prime de maintien. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé depuis, je crois qu'il a quoi? Il a 13 buts en 19 matchs.
13 buts. Ouais.
13 buts en 19 matchs.
Malgré tout, ils perdent. Hein,
ils sont très très, comment dire. C'est très très mal payé pour Metz sur les deux derniers matchs contre Rennes et contre Strasbourg.
Ouais, mais à la limite,
vraiment. Moi, le match contre Rennes, il mène 2-1 la semaine dernière. Il y a un sauvetage de théâtre à 2-1 sur la ligne. Derrière, ça fait 3-2. Ce soir, il y a poteau de Miko Tadze à 1-0. Ça fait 2-1 derrière coup sur coup. Et donc, en fait, ils envoient Nantes et Le Havre sauvés sur ce but-là. Alors après.
Mais attends, ils sont pas encore en Ligue 2.
Oui, non, ils sont au barrage. Non, je parle de juste parce que s'ils gagnent ce soir, attention, ils sont à égalité avec Le Havre. Le Havre joue Marseille la semaine prochaine, et donc s'ils prennent un nul et que Marseille gagne au Havre, ils auraient été en Ligue 1 et sauvés sans le barrage. Donc ils ont raté le gros coup de la soirée.
Je suis d'accord avec toi sur l'analyse ponctuelle des derniers matchs, mais
déjà
la saison et deuxièmement comment tu peux t'en sortir quand tu as un joueur qui fait cette diff, tant mieux, hein.
Il les emmène un peu, Flo. C'est mieux
c'est
depuis.
C'est abyssal.
Ouais.
Enfin bon, à part Miko Tadze, t'as pas d'équipe. Donc, ok, tant mieux, hein. Moi, je leur souhaitais de se maintenir directement. Ils le feront peut-être par les barrages. Et c'est incroyable. Mais le mec à qui on n'a pas fait confiance à l'Ajax, qui revient, qui met 13 buts en 19 matchs, c'est une dinguerie.
Non, mais Miko Tadze,
Greg est là, les gars.
J'espère qu'on va le garder en Ligue 1, Miko Tadze.
Salut, Greg.
Salut Gilbert, salut Walid.
Salut.
Bon Greg, comme le dit Flo, Metz n'est pas en Ligue 2. Attention, le barrage, avec match retour en plus à Metz.
Pas en Ligue 2, mais on pouvait vraiment valider la place de barragiste déjà. Après, c'est une déception parce que les semaines elles passent, les matchs ils passent et ça se ressemble. Et ce soir, franchement, si c'est pas une erreur de coaching, je sais pas c'est quoi, puisqu'on voit aucun changement, les joueurs sont KO physiquement puisqu'ils essayent de tout donner.
C'est vrai que le deuxième changement, il est à 91e.
Ouais, c'est ça. Le premier, il est sur la blessure
de Camara.
En fait, Bologna, c'est pas qu'il y a 5 changements.
Ouais, mais c'est ça. Mais après, le problème, après, qui va mettre, mais au moins qu'il fasse descendre le bloc offensif, défensif, on est déjà bas. Mais qui réadapte au moins les choses.
C'est vrai, c'est vrai.
À un moment, on veut conserver un résultat. Après, on se prend l'égalisation. Au moins, on va conserver le nul. Mais non, ça se répète comme contre Rennes, ça se répète comme contre plein de matchs. Et encore une fois, on compte sur qui? Miko Tadze. Voilà. C'est-à-dire que nous, quand on regarde un match, voilà, nous, quand on regarde un match du FC Metz, parce qu'honnêtement, on se fait chier, hein. Mais on espère juste que Mikotadze marque et qu'après, on tienne le résultat.
Sur le premier but, là, ce qu'il fait à Silla, au passage, Silla, 20 millions d'euros. Silla, il faudra faire un bilan. Il faudra faire un bilan la fin de saison des recrues, des pires recrues. Je pense qu'il est très, très haut. Mais ce qu'il fait à Silla, sur le premier but, sur l'accélération, mais ce mec-là, faut vraiment qu'il reste en Ligue 1. Moi, je le veux dans ma Ligue 1. Je veux pas, non, mais sincèrement, je.
Bon, Greg, t'as encore de l'espoir, Greg.
Comment?
T'as encore de l'espoir, quand même.
Ouais, bien sûr, on a l'espoir, puisque Paris, ça tombe pas très bien en ce moment. Mais voilà, on est là pour une fois, on compte sur Marseille aussi.
Ah, mais pourquoi Marseille, ça change rien, Marseille?
Ah, parce que Marseille va jouer, oui. Parce qu'il...
Mais non, mais Marseille, il faut qu'il gagne.
Il n'a pas fait tous les calculs.
Il y a 11 buts d'écart entre Le Havre et Metz. Ouais. C'est trop compliqué.
Je pense que Marseille va gagner tout
ça. Va gagner 8-0.
C'est compliqué. Non, je pense que c'est plus du côté de. Bon, je pense que tu feras ton barrage contre Saint-Etienne. Tu vas faire ton barrage contre Saint-Etienne. Ou Paris FC, ouais. Ou Rodez.
Ou Rodez.
Et pour info, il a fait un changement à la 67e quand même, avant les deux.
Ah d'accord, ok.
Mais bon, ça change pas grand-chose. Ouais.
Bon, les gars, on n'a pas eu le temps, parce qu'évidemment, on s'est concentré ce soir sur les matchs à suspense. Je le répète, Paris-Toulouse n'était pas un match à suspense. Paris a perdu ce soir. Demain soir, 2 heures de Ligue 1 entre 22h et minuit, on reviendra sur le départ de Mbappé et l'actu parisienne, évidemment. C'est fini pour ce soir, il est minuit 30. Merci Walid.
Merci à toi.
Merci Flo.
Merci à vous.
Et à
salut Flo, rentre bien Flo.
Bonne nuit.
Ciao,
à tous.
À demain.
RMC, l'after foot.
RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le RMC Poker Show. On est là de minuit à 1h du matin, comme d'habitude. C'est le rendez-vous hebdomadaire, la seule émission de poker à la radio. Salut Mundi.
Salut mon Daniel, lasciatemi cantare. T'as vu que j'ai stigmate de l'Italie de Sanremo, tu vois.
C'est ça, je vois que tu n'y es pas allé pour rien.
Pas pour rien, ouais, on est revenu avec.
Il faudra également parler de nos performances respectives dans cette IPO formidable.
Exceptionnel.
On a passé un super week-end, un petit peu plus même pour toi, t'es resté quelques jours.
Ouais.
T'as même failli pas rentrer.
J'ai failli pas rentrer.
Qu'est-ce que vraiment à un moment j'ai presque cru vraiment que
je ne prendrais
pas l'avion.
Ça montait
mais comme souvent au poker, ça monte et ça descend
très vite.
Le programme du soir avec nous en studio, et c'est la première fois qu'il est avec nous dans le RMC Poker Show. C'est pourtant l'un des joueurs de poker les plus bankable du moment,
le champion
Jonathan Pastore, le cousin de Javier.
Exactement, il nous l'a dit,
le cousin secret de Javier. Il est là,
le financier.
Salut Jonathan.
Salut l'équipe, bonjour.
Joueur complet, tant au niveau des résultats que de la réflexion sur le jeu. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'on va évoquer avec Jonathan Pastore dans un instant. À distance, mais on les aura également, et c'est très important. Yo Viral, ça fait un petit moment qu'il est venu, et on connaît vos liens, Jonathan.
Ça fait.
Avec Yo, bien sûr, puisque tu as démarré avec lui quasiment, on peut dire ça.
C'est ça, en tout cas, ça fait 2 ans qu'on collabore ensemble et que du bonheur.
Romain Lewis, on parlait la semaine dernière de Romain Lewis, de son résultat à l'EPT Monaco et de la surprise qui était la nôtre quand on s'est aperçu que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas fait de TF.
Ouais.
J'avoue que j'étais resté un petit peu bouche bée, donc je me suis dit il faut absolument que Romain vienne. Et puis il y a l'actu, et puis voilà. Et l'actu, Mounir, je te propose, sous le regard de Jonathan, de commencer par ça. Et donc cette Italian Poker Tour qui a battu tous les records le week-end dernier, on n'y est pas allé pour rien, parce que quand on prend la décision d'aller sur un événement, si c'est un flop, on n'est pas très bien après.
Si c'est un flop, c'est pas un top.
Mais ça a bien marché. Donc il y avait 3828 joueurs sur cette épreuve. Et c'est un Italien qui a gagné à domicile.
Ouais,
Carlo Andreini.
Eh oui, pour 240 000 euros. Sachez que cette personne-là était à ma table où on s'est envoyé.
Tu vois vraiment qui c'est ?
Bah oui, parce que j'ai vu la photo, parce que je connaissais pas le nom, donc forcément ça finit tous avec des i. Mais j'ai vu.
Regarde-moi. Je finis pas avec un i.
Ouais, mais toi, t'es un garçon pas comme les autres. T'es un Italien pas comme les autres. Et donc, il était à ma table et on s'est envoyé énormément de pêchons. Donc, pour le coup, je vois totalement qui il est. Super festival, Daniel, bien évidemment. Des très, très gros joueurs. Ultra aggro, enfin, j'ai été très impressionné par le côté très agressif des Italiens qui sont pour moi quasiment impossibles à jouer. Enfin, c'est juste énorme. Et bien évidemment, malgré ces 3828 joueurs, j'ai fini 150e.
Alors justement, t'as un peu galéré au départ parce que je pense que tu as tenté plusieurs fois le main.
3 fois.
Et c'est bizarrement, c'est vrai que ce sont des histoires dans le poker qui arrivent très régulièrement, quand t'as voulu faire le jour 1 le plus court, le soi-disant rapide, le de turbo. Fin de journée, de l'invité surprise de la fin. Turbo qui était, oui, turbo, bon, enfin, on a connu des turbos plus turbos que ça.
Bah, 25 minutes, mais 25.
C'est d'un 25 ou un 30
25 ou 30 minutes.
Voilà.
30 minutes,
ouais. Donc du samedi soir, il samedi me semble, soir. C'est ça.
C'est exactement ouais, ça.
T'y allais comme ça.
Le tournoi de la survie.
Même pas à 21h, t'es arrivé plus tard parce qu'on a dîné avant.
Oui, on allait être règle, donc c'est 21h et quelques.
22h30.
Voilà. C'est à peu près ça.
Et tu t'es qualifié.
On s'est qualifié, ouais.
Et à la fin du dimanche soir, t'es monté très très haut.
Ouais,
moi, j'étais persuadé que tu décalerais ton avion. Et
moi aussi.
Et bon, ça s'est achevé bêtement, comme souvent dans le poker, sur un flip.
C'est mieux qu'un flip, c'était un 50-50 qui était très étonnant d'ailleurs.
Ah oui, un flip, c'est pas un 50-50.
Oui, c'est
pas qu'il me reprenne.
Non, mais il y a un différé.
Je confirme, 50-50, c'est un conflit.
Voilà. Le As-Roi
As-Roi contre 9 et 10 pour un pot à pratiquement 70 blindes. Donc
alors on dit toujours que celui qui prend l'initiative, on ne peut pas lui reprocher grand chose, mais le mec qui t'a fait tapis avec 9 et 10, faut envoyer quand même. Hein.
Bah, qu'est-ce que je te dis, c'est un peu bienvenue en Italie, bah, c'est un peu ce qui s'est passé depuis mon séjour en Italie. Les trois premières boulettes, bah, ça a été une catastrophe. J'ai monté les jetons et ensuite tu te fais goder. Et celui qui m'a permis de passer au D2, bah, forcément, les mecs étaient encore 100 fois plus aggro, ils envoyaient tout, que lorsque tu étais chargé, bah, tu montais vite.
Bah, ça confirme ce que mentionnait Mundir, dans le sens où les Italiens jouent beaucoup à l'ego, sont très agressifs, et ça confirme, ça m'étonne même pas que t'aies pris la boîte avec 9 et 10. Quoi.
Jonathan, je pose, ça m'arrive souvent de poser ces questions, pas toujours à l'antenne, mais à côté à des joueurs pros. À chaque fois, je prends un sourire narquois, en tout cas, Mundir me l'adresse souvent quand je pose cette question, ça paraît débile.
Dis-moi tout.
On est à la fin du jour 2. T'as monté à ce moment-là combien de jetons ?
Je suis à 200...
En big blind, je me souviens plus blind, à ce moment-là, mais t'es très
ouais, je suis à 60 bébés.
Voilà. Donc, t'es à très peu de temps de passer au jour 3.
Ouais.
Quand tu prends un tapis comme ça et que tu as As-Roi, il est absolument impossible de fold. Tu dois payer à tous les coups.
Impossible, on est très content d'ailleurs. On a su relancer justement pour provoquer ça. On s'attend pas forcément à avoir 9 et 10, mais en tout cas, l'idée, c'est de voilà, valoriser notre main. Et non, on ne folde pas, il ne faut pas être orienté par le fait que c'est la fin de la journée ou autre. Ça, justement, ça peut être des biais un peu, et on peut justement faire des gros folds, des choses comme ça, purement liées à notre instinct ou notre feeling parce qu'on veut faire le jour 3, par exemple. Et non, As-Roi d'office, très bonne main, surtout contre des Italiens. On est très contents, c'est comme deux As, hein, vraiment, cette situation-là.
Ok, d'accord. Alors, on discutait, Daniel. Alors, qu'est-ce que je te disais ?
Moi, je trouve que c'est quand même très différent de deux rois ou deux as. Quoi.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, oui, évidemment, la main en soi est plus faible. C'est juste qu'il faut être prêt à jouer ce genre de situation. Par moment, on pouvait trouver des gros folds. Hein, comme ça, moi, j'ai eu ma table un jour sur le PT qui a fait un fold où il avait 4 bêtes de dame pour induire quelque chose. Et en fait, il a vu un tel en face de l'autre joueur très, très. Il a fait un peu la moue, il a fait tapis, il a foldé deux dames. Jamel Hassani d'ailleurs que passe le bonjour et il a fait ce fold là, il avait prévu de payer le tapis dans tous les cas, en fait il a vu ça, il a vu cette action et il s'est dit je vais folder ma paire de dames, donc ça peut arriver, il y a des situations, voilà, il faut toujours réévaluer, mais là en l'occurrence Mundir ça va très bien
pose la question autrement. Alors tu me dis il faut pas être orienté sur le moment de la journée ou de quand ça arrive, je peux l'entendre, je sais pas si on considère un match de tennis ou un match de foot, je pense que les moments dans un match ou dans un tournoi sont importants. Je vois pas pourquoi dans le poker les moments seraient pas importants. Pardonne-moi d'essayer d'en discuter avec toi, mais à ce moment-là, Mundir, je te repose la question. Si le mec te dit j'ai les 10.
Si le mec me dit j'ai les 10.
Ouais, ou c'est un flip. Il te dit c'est un flip parce que t'es prêt à le jouer contre moi. Tu sais à l'avance sa main. Il te dit pas 9 et 10. Il te dit on va jouer un flip ensemble.
Bah je le joue parce que
là c'est pas un 50-50 en l'occurrence que t'as joué. Tu le joues à ce moment-là?
Oui, je le joue et je vais t'expliquer pourquoi. On a eu une discussion avant. Qu'est-ce qu'on se disait? Je dis soit je monte des jetons pour vraiment, parce que après la structure t'es rattrapé par la structure, soit je montais des jetons soit rien. Là actuellement.
Non, mais attends. Ça n'a rien à voir ce que t'es en train de me dire. Là t'es en train de me dire que justement tu as joué en pensant au fait que tu devais partir et tout, donc ça n'a rien à voir. Moi je parle de
oui,
moi je veux uniquement parler du jeu de poker, si pas le du mec, fait que t'allais partir si le lendemain, qu'il fallait déplacer ton avion.
Si le mec m'annonce qu'il a perdu de 10, alors déjà ça serait juste moi. Pour moi ça serait un test de dire le mec s'il a perdu de 10, faut pas qu'il le dise surtout. Moi bien sûr que je le paierai tous les jours, parce que moi ça change rien que que je sorte à 150 left ou à 80 left ou à 70 left. Pour moi, c'est la même. C'est à partir du moment où j'ai As 3 suité, donc pour le coup, pour moi, qui est une main quand même assez forte. Donc à partir du moment où le mec, quand il min raise et que moi je le 4 bet, je le 3 bet, pardon, le gars qui prend un tank, mais même pas, il tank à peu près. Même pas une minute pour dire all-in, quoi, tu vois. C'est-à-dire, en plus, les tells qu'il avait, c'était genre le mec, le gros arracheur. Bon, bah, voilà. Mais si maintenant le mec dit j'ai les valets, ou j'ai les as, bon, d'abord, je suis pas censé le croire, déjà.
Mais non, mais c'est pas ça que je te demande.
Ce qui est très intéressant.
C'est pas ça ma question. On est en train d'essayer de parler de théorie. Je te dis, est-ce qu'à tous les coups, tout le temps, on est obligé, à n'importe quel moment d'un tournoi, sans analyser le contexte global, tu as As-Roi, à tous les coups tu payes?
Non, alors on va parler de stratégie maintenant, vu que c'est un peu le thème actuellement. Ce qui se passe en fait ici, c'est qu'il y a deux options. Je pense qu'on peut folder As-Roi, c'est pas une main non plus, on n'est pas en train de...
Je parle du moment, moi.
Mais le moment, dans l'instant présent, en fait, il faut penser
avec les jetons qu'il avait.
À un peu à ce qu'on appelle levé futur dans le poker, c'est-à-dire, est-ce que quand Moundir va perdre ce coup ou gagner ce coup, qu'est-ce que ça va impliquer? En fait, ce qui se passe, c'est que quand il va gagner le coup, il va être dans des bonnes dispositions ensuite pour aller chercher les plus belles passes du tournoi. On est quand même, c'est à 80 joueurs restants, non, c'est ça?
Ou 150 left.
Ouais, 150, c'est encore très loin, mais quand il gagne ce pot, donc s'il joue ce pot qu'il le gagne, il se met dans des bonnes conditions quand même pour faire le top 50, au moins avec 100 bébés.
À ce moment-là, tapis du gars.
Voilà,
ça m'intéresse
a priori,
déjà plus. Ouais.
Et ensuite, évidemment, s'il perd le coup, il buzz du tournoi. Mais voilà, ça c'est la conséquence. Donc c'est les conséquences des deux actions. Est-ce que, si on call, on joue un conflip, donc ce que tu mentionnais, c'est le fait qu'on est 2-10 en face, très bien. Moi je le prends, la raison c'est que je vais pouvoir monter un stack pour aborder les places les plus intéressantes avec un gros stack. Et du coup, il y a un 9 futur de mettre de la pression et justement de gagner encore plus de jetons. Et en fait, en général, donc là c'est pas un spot qui est ce qu'on appelle close, c'est pas un spot qui est très compliqué, mais quand on a des décisions très compliquées, ce qui peut arriver en table finale ou en demi-finale, on va réfléchir à, ok. L'action que je mets, je réfléchis aux deux options. Si je call, qu'est-ce qui se passe? Si je fold, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est des modèles qu'on peut pas évaluer avec les solvers, etc. Et du coup, ça nous permet de prendre la meilleure décision possible.
Parce qu'on est d'accord que les moments sont importants. Si t'es beaucoup plus avancé dans le tournoi, peut-être que t'as pas envie de jouer à 50-50 parce que tu vas gagner, tu prends un gros risque et que tu peux gagner deux places dans le payout.
Non, en fait.
Quand t'es à la bulle, tu joues pas exactement de la même façon. Les moments, ça compte quand même.
Bien sûr, bien sûr. Ah. Mais je pense que c'est une question déjà, tu dois avoir cette question aussi en fonction du profil. Parce que si le profil en face de toi est capable de faire n'importe quoi et de jouer à l'ego et tout, bah t'as envie justement de prendre des mains un peu moins bonnes. Et il faut pas non plus forcément, ça c'est un truc qui revient, c'est il y a le moment du tournoi, de la journée, mais il faut pas avoir toujours le mal. Les gens ont tendance à penser, ah ouais, mais si je perds ce coup, je vais être mal, je vais perdre et tout. Alors que par contre, il faut penser aussi, ok, quand je gagne le coup, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, c'est que je vais me mettre bien. Et en l'occurrence, il faut fold As-3. Il y a des situations où en début de tournoi, quand vous faites 4 bets, 5 bets, aux États-Unis, vous faites 4 bets en début de tournoi, vous avez As-3 sur le main event, vous pouvez folder, voilà.
Tous les jours.
Il y a des tournois spécifiques,
donc c'est bien.
Tous les jours.
Donc c'est pour ça que je posais la question. Il y a des cas qui sont quand même spécifiques et je voulais savoir si là, ça pouvait en être un ou pas à la fin d'une journée où t'es quand même très confort en termes de jetons et où tu peux te dire, bon, bah, il y a un D3, j'ai peut-être pas envie ce soir de jouer un 50-50 à ce moment-là du tournoi.
Pour l'instant, il est confortable, 50 blindes. Mais la structure va le rattraper au bout d'un an. C'est le jour de tournoi, on arrive sur un average qui est assez bas un stack moyen qui est 20 blindes en demi ou etc. Donc en fait, c'est un tournoi qu'il faut quand même prendre beaucoup de risques. À l'inverse des main events ou des choses comme ça, où là on a des structures beaucoup plus deep, on peut éviter les balles, éviter des spots trop compliqués.
Là,
stratégiquement, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Sur des tournois de 30-40 minutes, je vais être beaucoup plus agressif, prendre beaucoup plus de spots préflop parce qu'on se fait vite rattraper par les blindes, etc. en général.
Oui.
Et donc l'idée, c'est de monter des stacks et je pense que voilà, Moundir peut absolument rien faire sur cette
main. Parce qu'il y a une série de toute façon pour aller loin dans un tournoi, surtout avec autant de joueurs, on va dire qu'il y a. Je sais pas si ça a déjà été évalué, le nombre de flips qu'il faut passer pour aller loin dans un tournoi.
Oui, il en faut quelques-uns.
Alors oui, justement, notamment sur les structures comme ça, des tournois de 30-40 minutes, on joue énormément de coups à tapis, etc. Mais plus la structure est longue, au final, plus on est censé jouer moins de coups à tapis aussi. Voilà, c'est un peu plus de grind, ce qu'on appelle monter des jetons proportionnellement tout au long de la journée. Et voilà quoi. Donc, mais en tout cas, Moudir peut vraiment rien faire dans cette situation-là. Et il a pensé aussi, je pense, dans sa tête, c'est-à-dire s'il gagne le coup, il se met très bien. Et au pire, il prend l'avion et puis il rentre à Paris. Quoi.
Non, mais j'ai eu le même coup au Triton. J'ai perdu avec As-3 face à paire de 7. Ça a été de longs discours en disant t'aurais dû folder As-3 suité sur un bounty à 40K. J'ai dit attends, je peux le mec chauve.
En plus, sur des tons aussi relevés, les joueurs vont avoir des ranges complètement différentes. Enfin voilà, là, si tu commences à faire ça, en fait, tu vas juste te faire éclater. Bon,
et surtout que il y a une chose, en tout cas là, moi j'ai progressé, c'est que je ne joue plus avec la peur de dire faut que je passe absolument ce que j'avais avant, faut que je passe au D3 parce que en fait je vais gratter des paliers et compagnie. Je visais la win, je visais la win. Et si je prenais ce coup-là, effectivement, bah, bon, c'est un autre tournoi pour moi.
Ça, c'est une grande force, c'est les joueurs récréatifs.
C'est une bonne question.
Non, mais il y a beaucoup de. Oui. En fait, un tournoi de poker comme ça au long cours sur plusieurs jours, t'as l'impression que tu marches dans la rue et il y a des coins de rue un peu sombres et t'es obligé d'en passer plusieurs. Quoi. T'as un mec avec un flingue qui t'attend, un coup, t'as un mec avec un couteau, avec une matraque et il faut passer. C'est comme si t'avais un jeu vidéo.
T'es obligé d'esquiver les balles.
Et t'as les coins de rue où il faut passer.
Surtout dans ce tournoi. Ouais. Surtout dans ce tournoi. Mmh. Tu vois. D'ailleurs, Daniel, t'en as fait l'expérience. D'ailleurs, on en a discuté longtemps. Quelle est la légitimité de quelqu'un qui, en insultant, on disait que les Français étaient un peu borderline parce que ils n'avaient pas le recul nécessaire et que c'est des gros chouineurs parce qu'il a défendu sa blinde avec 8 et 10 où il frappe quinte de suite et le mec, un Français qui a les rois, ça en parle contre Daniel, donc forcément Daniel paye. Et puis le mec traite Daniel de fiche. Comment t'as dit ?
Ouais, c'est un call fiche.
Alors bon, donc pour le coup, c'était assez drôle.
Si la personne avait gagné le coup, il n'aurait jamais.
Totalement.
Ça. Moi, c'est toujours pareil.
Jonathan, tu reviens de Monaco. C'est tout frais, cinquième de l'EPT. Une belle somme, un peu plus de 260 000 balles.
Oui.
Encore une très belle performance dans une carrière qui commence à devenir hyper consistante. Tu as déjà un bracelet.
Oui.
À ton palmarès, c'était en 2022.
C'est ça, sur le $5,000 Six Max à Vegas.
Oui, et deuxième.
Très beau tournoi.
Ouais.
Qui est un des tournois qu'on dit les plus convoités par les joueurs pros.
Les plus pros, ouais. Ça y fait partie dans le top 5, 10 des tournois les plus prestigieux au World Series.
Oui, qui a gagné Alexandria aussi.
Le 10 000 Six Max. Qui a gagné le tournoi, la pointure au-dessus.
D'accord.
Très grosse perf d'Alex. Et puis deuxième bracelet aussi pour.
Est-ce qu'on peut considérer puisque tu as commencé à 4 ans et demi à peu près?
Alors. À 100% professionnel, oui. Avant, j'étais dans le tennis, je donnais des cours de tennis pendant la moitié de l'année. Donc ça fait quand même 10 ans que je suis dans le poker. Mais depuis le Covid, vraiment, c'est à 100% en gros. Quoi. Depuis le 2019-2020, c'est vraiment les années où je me suis...
On a de quoi dire que le palmarès, c'est quand même plutôt pas mal.
Ah, bien, tout fait. Ouais, runner-up, hein, runner-up du Main Event Europe WSOP 2022, qu'on a suivi. Bien évidemment que tu aurais dû gagner en temps normal.
Dans l'état, ouais, dans les conditions auxquelles j'ai fait face, c'était compliqué. J'étais vraiment très fatigué. J'ai failli m'endormir à table. J'ai fait un malaise après le tournoi. Donc très, au final, très content du résultat dans l'état où j'étais. J'ai pas spécialement produit mon meilleur poker non plus, mais j'étais dans un contexte où j'essayais justement de rester sur le qui-vive et de jouer, juste d'essayer de jouer, quoi, de continuer à jouer ce que je pouvais faire de mieux. Et c'est très difficile. À Rosedov, je pense que les conditions de jeu les plus compliquées, mais voilà, ça reste un tournoi incroyable. Les World Series Europe, il y a quand même des bracelets. C'est les seuls moments où on peut essayer de choper des bracelets en dehors de Las Vegas.
Ça, c'est étonnant quand même que tu ne sois pas entouré, par exemple, quand tu as un état de fatigue ou je sais pas, quelqu'un t'apporte de l'eau, du sucre.
Si, j'avais ce qu'il fallait, mais c'était ma responsabilité aussi. Je pense que j'avais pas non plus, j'étais pas dans les performances les plus optimales à ce moment-là. Mais voilà, ça reste quand même, en tout cas, je suis très content du résultat, mais très dur à jouer, très dans les conditions assez compliquées. Ouais.
Et Monaco, j'imagine que tu es également très content. Raconte-nous un petit peu cette EPT, le field, le tournoi, ta performance, comment tu t'es senti, tu as joué beaucoup de tournois.
J'en ai joué deux. J'ai joué le 2000, j'ai commencé par le 2200 Aeroler FPS où j'ai fait le D2, je suis rentré dans l'argent en ayant mis 4 poulettes quand même. Je vous laisse faire la compta de ce tournoi là et ensuite,
oui, du coup, on n'arrête pas de dire, nous, chaque semaine dans la RMC Poker Show, que maintenant quand on donne les résultats, on devrait donner la compta aussi.
Moi je me tiens, j'essaie justement, en tout cas pendant les World Series, je me tiens à une compta. J'ai, à la fin de mon Vegas, à chaque fois maintenant, je donne une compta sur les réseaux sociaux, combien j'ai gagné avec les frais, etc.
Ça c'est la nouvelle mode,
ouais, c'est important.
Il a fait
François Pirot était un des premiers à le faire aussi.
C'est la nouvelle mode. Moi, j'aime bien l'idée.
Ça, transparent, et je trouve ça bien aussi, même pour sensibiliser les gens à ce qui se passe réellement, sans compter la vente de parts et ce genre de choses. Donc, ouais, pour revenir sur le PT, bah, du coup, j'ai joué dans la foulée. J'ai enchaîné 8 jours non-stop parce que j'ai fait le 2000, et ensuite, il y a eu le D2, puis ensuite le D1 de PT. Il y a eu le Players Party entre temps. Du coup, petite récupération après, et ensuite du coup l'EPT et tout s'est enchaîné. Donc j'ai la chance d'être avec un vidéaste, un ami à moi, qui a tout filmé de la première main de l'EPT jusqu'à la demi, parce qu'après évidemment il y avait la table télé, donc pas besoin de filmer, il y avait tout qui était couvert par PS. Et ouais, voilà, du coup, sentiment incroyable. J'étais devant en top 20 tout le tournoi, je pense, jusqu'au D5, et ensuite les derniers jours ont été très compliqués. Des aires de cartes, vraiment, les mains que vous avez eues de roi de dame, c'est les seules mains que j'ai eues pendant les deux derniers jours, quoi. De tournoi, vraiment littéralement.
Comment tu le gères, le désert de cartes?
Bah, c'est un combat un peu mental en fait, c'est juste ça, il faut être patient, il faut se dire que la structure allait bien, que tout peut arriver. En plus, surtout vu la distribution des stacks, on était vraiment très très close de la demi à la TF. Bah, si je gagnais un coup, je pouvais passer chip leader, enfin, ou quasiment en top 3. Donc je savais que tout pouvait arriver, que je pouvais aussi faire 9ème comme faire top 3. J'attaque la table finale en 5ème position, je fais 5ème, le schéma est respecté, on va dire la finalité, et voilà, je rentre dans ce que je devais faire et j'ai rien pu faire. Je donnais meilleur de moi-même, je pense que peu fait d'erreur, je pense, globalement, sur ce que j'ai vu, après l'avoir analysé un petit peu là, ces derniers jours. Et voilà, très content de moi.
Tu dis beaucoup ce que tu fais derrière. J'ai l'impression que quand tu fais un tournoi, tu reviens dessus pour analyser tes coups, ta performance, le tournoi dans son ensemble, les décisions que tu as prises.
Surtout online. Alors, en live, j'ai beaucoup de tolérance envers moi-même. Ça va dépendre de ma condition. Ou par exemple, la Rosadov, c'était plus compliqué, donc j'ai pas pris le temps spécialement de regarder tout ce que j'ai fait. Mais par exemple, à Monaco, là, j'avais beaucoup de monde qui regardait et tout. Donc, c'était vraiment à.
Surtout que ses amis sont venus du Mans en voiture.
Ouais, 10 heures de route, 11 heures de route.
Maman regardait aussi.
Il
y avait une belle émotion, quoi, tu t'imagines.
Ouais. C'est vraiment un de mes meilleurs sentiments, bizarrement. Parce que bah justement j'avais tout cet entourage avec qui je pouvais profiter, et le lendemain voilà on a fait une fête et tout, enfin le soir même et le lendemain on s'est mis bien, et c'était vraiment sympa d'avoir tout le monde autour de moi. Et
comment s'est faite, moi je recule un peu en arrière Daniel, mais comment s'est faite ta rencontre et ta relation avec Yo?
En fait Yoann, c'est moi qui l'ai contacté de base. Je l'ai contacté après avoir coaché pour une plateforme française qui était à Malte.
D'accord.
Et je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, j'ai un projet à te proposer. Est-ce que ça t'intéresse? Il m'a dit, ouais, d'office, on se rencontre. Je l'ai rencontré dans son appartement à Malte. Et on a grave accroché. Vraiment, on est des profils un peu différents, mais on a grave accroché. On avait la même vision du poker et beaucoup de points communs. Même encore maintenant, on s'en trouve encore plein. Et on a lancé un groupe de coaching du coup avec PokerPro.fr.
Quel point commun, par exemple?
En fait, la vision du poker globalement, la perspective d'avenir aussi, comment on se voit dans le poker, l'ambition aussi. Même si Yo maintenant joue beaucoup plus en cash game, il a toujours été fin de titre. Voilà, il fait encore tous les doublés. Il joue beaucoup quand même les doublés SOP. Peut-être, je sais pas à quel point cette année. Et puis voilà, des trucs plus personnels.
Et toi, c'est quoi alors ton ambition? C'est d'aller chercher des titres ou de dévier? Par exemple, on a eu un Julien Martini qui a d'abord cherché beaucoup de titres et qui maintenant se consacre quasi exclusivement au cash game. Il est plus dans la rencontre avec les gens, dans la lutte personnelle, c'est son truc du moment. Comme toi, tu as déjà dessiné une évolution pour ta carrière?
Moi, je n'ai jamais rien caché, clairement, c'est d'être le Français avec le plus de bracelets, de me créer toutes les opportunités possibles et éventuellement aussi gagner le PT. Et
comment tu as grandi dans cet univers? Au début, tu dis, t'es prof de tennis, la bascule vers le monde pro, tu l'as fait il y a 4 ans. Quand on bascule dans le monde pro du poker, c'est qu'on est bien obligé, soit on nous dit, mec, vas-y, t'as des qualités, soit on analyse soi-même que d'abord on est prêt à travailler, parce qu'il y a énormément de travail et tu travailles beaucoup pour ça, et qu'on se rend compte qu'on est bon. C'est difficile de se rendre compte qu'on est bon dans une matière qui est parfois aléatoire.
Bon, on s'en rend compte qu'on est entouré. Quand on est entouré de gens qui sont plus compétents que nous. Moi, j'ai la chance d'être très bien entouré dans le poker, entre la partie mentale, la partie technique, des gens qui sont bien meilleurs que moi techniquement, et que je peux aussi conseiller par
des gens avec qui tu bosses, que tu considères être comme dans un team, comme un joueur de tennis aurait son prépa physique, son diététicien, Junko, qui a tout un staff autour de lui.
Moi, j'ai une équipe technique, entre guillemets, avec une préparatrice mentale qui est Audrey Verlhomme. On travaille principalement sur Vegas. Salut Audrey. On travaille principalement sur les World Series. Donc vraiment, c'est la période où on travaille ensemble pendant cette semaine. Parce que sur les festivals plus courts, j'ai un peu moins besoin de cet aspect accompagnement, et que c'est des festivals plus courts. Donc j'ai cette capacité actuellement à me gérer moi-même sur des festivals comme ça. Ensuite, j'ai la partie un peu technique où j'ai mon coach, mon ancien coach, maintenant c'est plus vraiment mon coach, mais Igor, avec qui on discute beaucoup. J'échange beaucoup avec des très bons joueurs français autour de moi. Et puis, je travaille avec un coach aussi dans la partie tel, etc., où on a créé un groupe avec quelques joueurs français, on travaille beaucoup là-dessus.
Il paraît que c'est beaucoup sur les tels, c'est ton axe de travail du moment, c'est autour de ça.
Moi, je pense juste que j'ai déjà été toujours assez bon en termes d'analyse, même corporelle. J'ai déjà fait des calls, des gros calls, même à Rozadov, dans des moments très importants.
Mais ça se bosse vraiment avec des spécialistes. Ouais. Je me souviens de la vieille légende qui disait, qui était réelle d'ailleurs, que les premiers joueurs de poker bossaient avec des anciens du FBI.
Bien sûr.
Qui sont profilés. Voilà, exactement.
En fait, il y a des spécialistes qui sont, alors ils sont très peu dans le monde, et encore, j'ai la chance d'être avec la seule personne qui fait ça pour le poker. Et c'est incroyable, parce que en fait, ça nous faisait des horizons en fait pour créer des plus gros edges. En fait, ce qui se passe, c'est que sur les tournois très durs comme les tritons, genre les 10 000 des EPT, etc., le niveau est très relevé globalement, pas se voiler la face. Même les joueurs qui estiment être très bons, ils ont quand même un faible retour sur investissement. Du coup, moi j'ai réfléchi à, ok, comment j'optimise, comment j'augmente, comment je crée un edge, parce que techniquement je le créerai pas, dans le sens où même si j'atteins mon prime, je serai techniquement au même niveau que les meilleurs par exemple. Mais par contre,
tu veux dire qu'à un moment, techniquement,
on est capé quoi.
Dans ce jeu-là, voilà, ouais, tout le monde est capé.
Alors il y a beaucoup de travail.
Il y a un moment, on peut pas être plus génie que le génie quoi.
Je pense que techniquement, l'humain est capé, le solver non, mais le robot non, mais l'humain est capé et dans sa faculté d'apprentissage et d'analyse. Par contre, comment on peut créer un plus gros écart? Et l'écart, pour moi, il se fait sur les tels. Et c'est pour ça que je travaille avec un spécialiste là-dedans. J'y passe énormément d'heures. Là, avant Vegas, je vais faire 20-25 heures, je pense encore.
Et tu as pu constater, parce que tel, ça semble être un petit peu aléatoire. Tu vois, j'ai vu, il a fait ci à ce moment-là et tout. Peut-être il ne le fait plus une heure après de la même façon. Comment tu optimises l'observation pour arriver au tel?
Là, par exemple, tu vois, tu as un tel, dans le sens où tu as une réaction émotionnelle qui émerge en toi et ça se matérialise par ta main qui fait des petites gestuelles, avec ta main qui se met sur ton bras ici.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ça, c'est une réaction. Bah, ça, je ne peux pas te le dire parce que je n'ai pas le niveau technique actuellement pour discerner ça, mais c'est forcément une réaction émotionnelle à ce que tu es en train de réagir. Par rapport à ce que je dis. Et du coup, tout ça, moi, j'ai travaillé sur des trucs bien spécifiques au poker. Et par exemple, en fonction de la raideur d'une main, maintenant, je peux savoir dans quelle partie peut. Enfin, j'exagère, mais en gros, mon travail, c'est de travailler des axes du corps pour déterminer quelle émergence émotionnelle à mon adversaire pour ensuite me dire, OK, il est peut-être dans cette partie-là de sa range ou autre. Et ensuite, ça peut même complètement changer la main et devenir une main un peu loufoque si on voit la partie technique. C'est juste, et moi, j'ai exploité un truc que j'ai vu. Alors, il n'y a rien, encore une fois, je suis en pleine. Là, en ce moment, ça fait que quelques mois que je travaille dessus. Il va falloir des années de travail pour mettre tout ça en place et tout. Et c'est pour ça que dans quelques années, j'aurai peut-être plus cher. Mais quand j'aurai atteint ce niveau-là d'exigence d'un point de vue tel, parce que je pense que c'est l'avenir et je pense que en ayant un meilleur niveau de ce côté-là, je vais pouvoir faire la différence à des plus gros tournois contre des joueurs qui sont bien meilleurs que moi.
Et on dit que les tels, ça sert encore plus en cash game, où le côté il y a l'argent sur la table peut provoquer plus d'émotions.
Alors je pense, oui, ça c'est possible, mais je pense qu'aussi en cash game, on joue toujours les mêmes joueurs. En l'occurrence, soit dans les secs parisiens ou dans des parties à part online, c'est différent. Mais en live, en tout cas, on joue souvent les mêmes joueurs. Donc en fait, c'est plus puissant. Genre l'analyse corporelle est beaucoup plus puissante parce qu'on a cette occurrence à avoir régulièrement les mêmes joueurs. Et du coup, on a beaucoup plus d'infos sur les joueurs. Donc c'est beaucoup plus précis.
Et qu'est-ce qu'on fait alors après? Après, on fait des fiches comme un catalogue. Tel joueur, j'ai ces infos-là en tel. Tel joueur, j'ai quand il fait ça, c'est qu'il a ça. Quand il fait, comment on fait? On emmagasine tout ça dans sa tête?
Non, on note. C'est du travail un peu comme technique. En fait, on note, on note les joueurs, on note les infos qu'on a. On réévalue aussi. Et moi, j'ai la chance d'avoir un petit groupe avec des joueurs que je travaille français et on travaille là-dessus. Et voilà, l'idée c'est d'optimiser ça et de devenir, voilà, d'étudier un peu tout ce qui se passe, de remettre tout en question parce qu'on est un peu pas les pionniers, mais on va dire qu'on est le premier groupe à travailler là-dessus spécialement et on pas dans le flou parce qu'on est encadré via notre coach, mais on est les premiers à faire ça, donc on fait beaucoup d'erreurs évidemment. Il va nous falloir des années d'apprentissage pour mettre tout ça en place correctement, quoi.
Bah oui, Daniel.
L'analyse des tels. Ouais. Tu te souviens, tu m'avais dit qu'au Kems, toi, t'étais super fort.
C'est moi qui t'ai dit ça. Il a repris ma vanne. Ok, d'accord, c'est gentil. C'est sympa. Non, mais j'ai pas mal. J'avais lu.
T'arrivais toujours à trouver les signes de l'autre.
Oui. Ah, je te jure.
Allez, on va revenir pour la deuxième partie de l'émission. Yo Viral sera avec nous en direct de Dubaï. Yo Viral est quelqu'un qui déménage.
Et qui voyage aussi, bien sûr.
Mal de Dubaï,
Nicaragua, voilà. Tout ce que tu veux.
À tout de suite.
Ciao.
RMC met cartes sur table.
C'est le RMC Poker Show. Vous aimez le poker? Vous êtes fan de l'afterfoot? Chaque soir à 22h45, rejoignez le tournoi Afterfoot sur winamax.fr. Gilbert Bribois et Daniel Riolo vous y attendent pour rythmer vos parties. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
La deuxième partie du RMC Poker Show, on est là avec Mundir, on accueille Jonathan Pastore, qui n'est donc pas le cousin de Javier, et encore moins le neveu de Thierry.
Et oui.
Il a mis du temps pour Thierry Pastore.
Et j'aime beaucoup, en plus, j'avoue que... Musique Black.
Je sais que tu ne connais pas Thierry Pastore.
Ah, non, j'ai essayé de trouver la référence, mais je n'ai pas trouvé.
Non.
Attends, pas un sportif français, non?
Non, c'est un chanteur. Un chanteur des années 80, 70-80.
Thierry Pastore?
Non. J'irai voir sur Deezer.
Ah bah tu verras, non, c'est sympa.
Ou sur YouTube. Peut-être Dailymotion, du coup.
Je crois que c'était son deuxième tube, il n'y en avait pas un avant.
Il y en a un autre qui est encore plus connu.
Il y en a un qui est plus connu.
Attends, là, t'as rien compris.
Ah, mais oui, bien sûr, c'est ça son vrai tube.
C'est une mélodie, folie, infini.
Coup de folie. Fini. Voilà, ben, ça te correspond, coup de voilà, folie, coup de génie.
C'est ça, ah, c'est tout moi.
Voilà, voilà. Romain Lewis sera dans un instant avec nous pour un petit bilan d'un EPT Monaco qui s'est bien passé pour lui. Et tout de suite, en direct from Dubaï, Yo Viral. Salut Yo, comment ça va?
Yo la famille.
Monsieur le Qatari.
Il y a longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles. Qu'est-ce que tu deviens?
Toujours le même.
Toujours le même.
J'ai pas changé.
Là, on pourrait une autre chanson, toujours le même.
Dans un mois, là.
Une autre chanson, comment dire, référence.
Référence, toujours la même.
Je sais pas, il dit qu'il est toujours le même, donc il n'a pas changé.
Non,
toi, non plus.
Tu n'as pas changé.
Jonathan, il dit les refs, il les a pas du tout. Il est largué au niveau des refs années 80.
Je me mettrai à la page la prochaine fois.
D'accord. Yo, Daniel, on est tous nés. On est nés en 90 tous, hein.
Oui, ouais, vrai, je sais, mais moi, tu sais, je suis un boomer, quoi. J'ai des vieilles références, tu sais. Le lien entre vous deux, Jonathan a commencé à parler de toi pendant que tu n'étais pas là. Donc, finalement, on pourrait presque dire si tu avais un, comme on dit au foot, un centre de